Hello et bienvenue sur le podcast Toutes des audacieuses créatives, le rendez-vous phare pour les femmes entrepreneurs désireuses de créer un business à leur image. Moi, c'est Marion, je suis l'âme créatrice derrière les audacieuses créatives. En tant que designer de marque, spécialiste du web et mentor en branding, je suis là pour te partager mes 14 années d'expérience dans le branding. Mon objectif ici, t'accompagner dans la conception d'une marque personnelle qui te ressemble, qui vibre au rythme de tes valeurs et qui attire naturellement les clients qui sont faits pour toi. Et au passage, on va faire ça dans le kiff et la bonne humeur. Branding, c'est bien plus que des couleurs ou un logo. C'est une vision à 360 degrés de ton entreprise, de l'identité visuelle au ton de ta communication, en passant par ta présence en ligne, la création de ta communauté sur Instagram, l'expérience et le soin client, sans oublier la stratégie d'entreprise et de marque. Tous ces éléments fusionnent pour forger une image de marque en parfaite harmonie avec qui tu es. Alors, chère audacieuse, es-tu prête à embarquer dans cette aventure pour te créer une marque éclatante, fière et impactante ? Bonjour chère audacieuse créative, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode d'aujourd'hui qui est un peu spécial puisque c'est le premier d'une longue série, je l'espère, où j'ai l'intention d'inviter plusieurs entrepreneurs à venir me partager à la fois leur parcours, te donner des conseils sur leur expertise respective et parler un petit peu aussi de leur marque personnelle puisque c'est aussi ce qui nous intéresse dans ce podcast. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir ma très chère bestie que tu connais peut-être déjà, Lauriane. Lauriane, merci d'avoir accepté mon invitation.
Hello, coucou. Merci à toi, je suis hyper heureuse de commencer avec toi cette série de podcasts. Je ne sais pas évidemment si mon interview sera postée en premier, mais sachez qu'on enregistre pour la première fois, pour Marion, une épisode interview. On l'a déjà fait plusieurs fois ensemble sur mon podcast, mais sur ton podcast, c'est la première fois et je suis honorée.
C'est vrai, c'est un crash test.
Oui.
Lauriane, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, un petit peu qui tu es et ce que tu fais pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ?
Alors moi, je m'appelle Lauriane, j'ai fondé Get Your Com en 2020 et mon but, c'est d'aider les femmes à briller, à prendre leur place et du coup, je les aide à développer leur business en créant des stratégies de communication et donc en fait, en les poussant à être visibles de leurs clients idéaux. Parce que, et ça, on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, c'est pas la même chose de juste avoir de la visibilité et d'être visible des bonnes personnes et de te rendre visible de la bonne manière des bonnes personnes. Donc moi, j'aide vraiment mes clientes à faire ça. Et du coup, bah, ça va faire presque 4 ans, 3 ans et demi. On va dire 3 ans et demi que je fais ça.
Ok, merci pour cette présentation. Ce que je te propose pour commencer, avant d'attaquer le vif du sujet, c'est de faire un plutôt ceci, plutôt cela.
Vas-y.
Je t'invite, si tu as envie de développer tes réponses avec grand plaisir, comme ça les personnes qui nous écoutent pourront un peu mieux te connaître. Alors c'est parti. Est-ce que tu es plutôt apprentissage à travers les livres ou à travers les formations en ligne ?
Alors, à travers les formations en ligne et pour un truc tout bête, c'est que même si j'aime beaucoup les livres, moi je suis quelqu'un qui est très auditif. Donc en fait le fait d'entendre quelqu'un m'expliquer quelque chose, ça a beaucoup plus d'impact pour moi. On va pouvoir me dire, oui mais ça existe les livres audio, je n'ai toujours pas passé le cap des livres audio, d'accord ? Je ne sais pas exactement comment vous faites, je n'arrive pas avec les livres audio. Et en fait ce que j'aime aussi beaucoup dans les formations, c'est souvent que tout est pensé pour que ça soit rapide. Moi j'aime bien les formations qui sont rapides, par exemple pouvoir faire l'intégralité d'une formation en 4 heures, moi ça me plaît, même si après je reviens dessus et que je passe à l'action, mais le fait de pouvoir consommer tout le contenu hyper rapidement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, qui fonctionne beaucoup plus avec ma manière de fonctionner, donc formation en ligne pour moi.
Ok, d'accord, réponse très complète, merci. Tu vas voir, c'est du pro, du perso. Hein.
Ok.
Alors, cuisine fait maison ou livraison Uber Eats ?
Oh là là, cuisine fait maison,
ouais.
J'adore de temps en temps, on va pas se mentir, genre quand je suis en PLS avec mes règles, me faire livrer Uber Eats évidemment, mais la majorité du temps, cuisine fait maison. Alors pourquoi ? Déjà parce que j'ai beaucoup grandi comme ça, donc en fait, moi la livraison, c'est hyper... Je comprends l'intérêt, mais c'est juste que je n'ai pas du tout le réflexe. Donc j'ai beaucoup grandi en me faisant à manger, parce qu'en plus j'adore faire à manger, on ne va pas se mentir, même si je fais un truc rapide, j'aime bien ça. Et en fait, depuis que je suis entrepreneur, c'est aussi devenu vraiment mes pauses. Et pour avoir une vraie bonne pause, je prends le temps de me faire à manger, je prends le temps d'aller faire mes courses, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis pendant que je cuisine, généralement, je vais écouter un podcast ou je vais regarder une vidéo, et en fait, ça va être vraiment mon moment détente. Tu vois, pendant que je fais à manger, je vais regarder les vlogs de Safia Gourari, que nous connaissons bien toutes les deux, ou alors je vais suivre les vidéos de Léna, enfin, c'est vraiment un truc détente, ça va pas être un podcast business, ça va vraiment être un podcast détente, et c'est vraiment un moment à moi que j'aime beaucoup.
Ok, d'accord. Travail le matin ou travail le soir ?
Le matin. Ouais. Le soir, je ne sers à rien.
Moi, c'est l'inverse.
À moi, à partir de 17h, je fais vraiment partie des personnes qui ne travaillent plus. Et il y a même une nouvelle règle que je me suis imposée, c'est qu'à partir de 17h, je ne prends plus de décision. Parce que mon cerveau ne sert vraiment à rien du tout le soir. Donc même si, par exemple, je suis en conversation avec quelqu'un et qu'on me demande de prendre une grosse décision, je préfère vraiment être très honnête avec la personne et lui dire que je prendrai la décision demain. Parce que vraiment, le soir, je suis pas bonne. Hein.
Ok, sauf, donc, petite aparté, sauf lendemain de festival où tu n'es pas non plus effective le matin.
Effectivement, cet épisode étant enregistré après 2 jours de carnaval, je vous mens pas, ce matin, j'ai pas été très productive, mais je le serai pas encore plus ce soir. Hein. C'est vraiment juste, toute ma journée va être blanche, quoi. Ah ouais, non, mais sinon, le matin, je suis beaucoup plus productive.
Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que t'es plutôt podcast ou newsletter?
Ah là là.
Oh putain.
Alors, ce que vous ne voyez pas, le moment de blanc intense où j'ai fixé la fenêtre en me demandant ce que je préférais, franchement, je pense que je vais dire podcast.
À écouter ou à faire?
Ah, bah tu vois, tu corses encore plus la question.
Ouais, ma question peut être prise dans les deux sens.
Alors, dans ces cas-là, j'aime plutôt faire le podcast, parce que c'est quelque chose qui est naturel pour moi, j'aime bien parler. Mais j'adore aussi faire ma newsletter parce que je trouve que l'exercice, il n'est pas pareil. Ouais. Parce que tu dois résumer encore plus dans une newsletter et que ça me challenge. Donc en vrai, je pense qu'à faire, je préfère les newsletters et à écouter, je préfère les podcasts.
Ok, d'accord. Soirée entre amis en boîte de nuit ou soirée tranquille en amoureux à la maison?
Les deux, hein. Par contre, soirée entre amis une fois par mois, alors que soirée en amoureux, je peux faire... Ouais, non.
Ok, d'accord.
Une soirée entre amis en boîte de nuit une seule fois par mois, sinon après je meurs. Mais sinon, le reste du temps, soirée entre amoureuses, ouais.
Ok. Coworking ou travail dans un coffee shop ou télétravail?
Télétravail, juste pour avoir Pixie sur moi. Pixie, c'est mon chat. De temps en temps, je fais des coworking, c'est pareil, je pense que j'en fais une fois par mois. Mais le reste du temps, vraiment, quand je suis dans ma bulle, je peux être très très productive.
Ok, ouais. Chien ou chat?
Oh là là, elle m'embête avec ça. Chat, évidemment, mais j'aime aussi beaucoup les chiens. Mes chats, parce que Pixie avant tout.
Pixie forever.
Exactement. Donc chat.
Ok. Et la dernière, Instagram ou LinkedIn?
Oh, Instagram, là c'est facile. LinkedIn, alors. LinkedIn, je pense qu'il y a encore, à l'heure d'aujourd'hui en 2024, une facilité à trouver des clients dessus. Mm-hmm. Parce que tout le monde est là pour le business et que c'est un truc qui est dit directement. Et donc, pour la petite histoire, moi, quand je me suis chauffée sur LinkedIn, je crois que j'ai été active pendant 6 mois sur LinkedIn, mais active à genre poster tous les 2 jours. Mmh. J'ai trouvé, au bout d'une semaine, mon premier client dessus. Et j'ai un post qui a atteint les plus de 10 000 vues assez rapidement, pareil. Et en fait, après, ça m'a saoulée parce que la culture qu'il y a sur LinkedIn ne me correspond pas. Je pense qu'évidemment, je pourrais trouver une manière d'être toujours moi-même sur LinkedIn, mais en fait... Franchement, flemme, je préfère largement la versatilité d'Instagram et la relation que tu peux créer sur Instagram.
Ok, bah, merci de t'être prêtée à ce petit jeu. Maintenant, on va attaquer les questions qui concernent ton parcours et ton expertise. Donc ma première question, c'est déjà juste de nous raconter un petit peu comment ça a commencé pour toi, comment t'as mis un pied en fait dans le monde du marketing et de la communication. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine-là?
Michael Jordan.
Oh yeah.
Alors, contexte. Je viens d'une famille de profs, c'est-à-dire ma mère est prof, mon père est prof. Et quand j'étais en 4e, ils ont commencé à me mettre un petit peu la pression sur qu'est-ce que je veux faire. Pas sur vraiment un métier en particulier, mais plus, il faut quand même que tu aies une direction à suivre pour déjà choisir le bon bac. Du coup, moi au départ, je voulais être journaliste. Ensuite, j'ai vu un reportage Arte d'une quelqu'un qui était vraiment genre dans un pays froid, Norvège, tout ça. Je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi. Je ne veux pas partir là-bas, en fait. Donc, je ne veux plus être journaliste. Et du coup, je suis allée au CDI en regardant tous les métiers qui gravitaient autour du journalisme. Je suis tombée sur attachée de presse. Et à l'époque, en tant que grande fan de basket, je me suis dit, mais il faut absolument que je sois l'attachée de presse de Michael Jordan. Parce que tout le monde trouve que c'est une personne affreuse et un très bon joueur, mais il faut leur montrer que c'est aussi une bonne personne. Entre-temps, j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'effectivement, Michael Jordan, c'était pas une très belle personne, mais que ça restait quand même un très grand joueur. Et puis, du coup, j'ai changé d'avis, mais je suis partie faire un DUT, Information et Communication, à Lyon. Un DUT qui était vraiment incroyable, parce que ça te montrait vraiment plein de pans de la communication et du marketing. Et c'est là que je suis vraiment tombée à fond dans le marketing digital. Je me suis spécialisée ensuite en master, toujours dans un marketing e-business et marketing digital. Et puis, ouais, après, j'ai continué. J'ai fait chef de projet web, où c'est pareil, je gérais une équipe. Et en fait, ça m'a pas plu parce que de gérer une équipe, tu te retrouves avec beaucoup de réunions. En tout cas, dans toutes les entreprises que j'ai faites, c'est ça. Et les réunions, ça m'ennuie profondément. J'ai l'impression de ne pas avancer. Je ne comprends pas pourquoi on passe autant de temps en réunion alors que des fois, genre, deux mails peuvent régler le truc. Du coup, j'ai changé de travail avec beaucoup moins de responsabilités. J'ai créé du contenu pour une école. C'était vraiment très génial. Et après, ma responsable est tombée enceinte. Et donc, on m'a dit, bah, ça sert à rien de la remplacer puisque Lorraine a déjà été chef de projet. Elle va juste redevenir chef de projet. Ce qui a été la plus grande erreur, hein, parce que sur ma fiche de paye, ça n'a pas été changé déjà.
Super.
Et ensuite, après, en fait, on est tombé en plein Covid et j'avais un supérieur qui m'aimait pas du tout et qui me faisait déjà un petit peu du harcèlement moral. Et pendant le Covid, ça a été vraiment le pire moment. Et du coup, burn-out, arrêt de travail, changement de carrière. Et du coup, je me suis lancée en indépendante.
Ok, d'accord.
Voilà. Mais du coup, le marketing me plaît depuis mes 14 ans.
Est-ce que tu peux du coup nous partager peut-être dans tes premières expériences professionnelles, comment elles ont pu façonner ta vision d'aujourd'hui du marketing?
Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis quelqu'un qui, quand elle a un doute sur un truc qui va pas lui plaire, j'y vais à fond pour être sûre et certaine que ça me plaît pas. Donc, mes premières expériences professionnelles, là où il faut les remettre dans leur contexte, c'est que j'y suis allée en sachant que ça n'allait pas forcément me plaire, mais pour être sûre que ça n'allait pas me plaire. Donc, j'ai fait un stage dans l'événementiel qui ne m'a pas plu parce que je déteste l'événementiel en fait. Organiser des événements, c'est terrible. Je comprends pas pourquoi ça passionne les gens. Et en fait, déjà, ce qui m'a pas plu à ce moment-là, c'est à quel point c'était une machine de guerre et à quel point c'était vraiment genre une usine à gaz. Genre, tu finissais un événement, t'avais même pas le temps de te reposer, que t'étais déjà organisé le suivant. Et on était vraiment dans du marketing agressif avec énormément de communication. On faisait de la publicité dans les métros. On faisait des flyers qu'on distribuait à tout le monde et n'importe quoi. J'avais déjà beaucoup de mal à comprendre pourquoi on faisait tout ça, alors qu'on savait qu'il y avait plein de gens qui ne voyaient pas et qui n'étaient pas intéressés par ce qu'on faisait. Donc ça, déjà, ça m'a pas mal perturbée. Et ce qui m'a aussi pas mal perturbée quand j'étais dans d'autres entreprises, c'est à quel point on pouvait voir le client comme juste un chiffre, comme une somme d'argent. Et ça, moi, ça ne va pas du tout avec mes valeurs. Et du coup, ça m'embêtait beaucoup à ce moment-là de vraiment ne voir que nos efforts marketing comme ben, on va faire le plus de chiffres possible pour avoir le plus gros chiffre d'affaires possible sans vraiment considérer les gens. Et donc avec des pratiques parfois un peu douteuses, pas douteuses légalement. Douteuse éthiquement, genre envoyer un max de messages à plein de gens, les convier à des événements où vraiment on va pas les considérer en tant qu'humains, mais où on va leur faire des visites le plus vite possible pour rentabiliser au maximum. Et ouais, non, ça m'a saoulée. Et du coup, ce qui m'a aussi saoulée, c'est que pour réussir à toucher plein de gens, tu fais des promesses qui sont hyper vagues. Et du coup, dans ces promesses vagues, bah il y a un peu de mensonge en vrai, parce que c'est pas totalement la vérité. Parce que tu vas enjoliver le truc, tu vois, c'est comme si je te disais que le marketing, ça t'aide à avoir des clients. Oui, c'est vrai, mais en fait, il faut entrer dans le détail pour comprendre déjà tu veux quel genre de client. Parce que évidemment, si tu fais du marketing, tu vas pouvoir très facilement, par exemple, si tu fais de la pub, avoir un max de clients, mais à quel prix? Et puis, est-ce que c'est vraiment les clients que tu veux? Voilà. Et donc, du coup, ça m'a aidé à voir tout ce que j'aimais pas dans le marketing pour après que je me rende compte qu'en fait, moi, j'aime le marketing qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus éthique. Quand je fais une promesse, je suis capable de la tenir, ma promesse. Et donc, du coup, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur maintenant. Et à chaque fois que, genre, je commence un nouveau truc dans le marketing ou que je réfléchis à ma nouvelle stratégie de communication, je me pose toujours la question de, OK, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et du coup, est-ce que tu es en train d'en faire un petit peu ou pas?
Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles surtout avec des femmes entrepreneurs. Pourquoi tu as choisi cette cible en particulier? C'est quoi qui te passionne dans le fait d'accompagner des femmes?
Alors, bah déjà, c'est un truc très féministe que je suis assez persuadée que plus les femmes prendront vraiment leur place dans ce monde, mieux le monde ira. Et en fait, je me suis aussi rendue compte que c'est une problématique, enfin, ce sont des problématiques que je comprends d'autant plus en étant une femme. Je comprends à quel point on a été élevé en mode faut pas faire trop de bruit, faut pas prendre trop de place, faut être discrète, faut être gentille, tout ça. Voilà. Faut pas rire trop fort, tu vois, même dans ta manière de t'exprimer. T'essayes de prendre le moins de place possible. Et ça, en fait, je trouve que c'est un truc qui résonne beaucoup avec plein de femmes. et du coup plus avec des femmes qu'avec des hommes. Ouais. Et aussi parce que bah, c'est plus facile pour moi de communiquer avec des femmes de manière générale. Donc c'est plus aisé d'être impactante dans ma communication, qu'on se comprenne entre mes clientes et moi. Et donc du coup le message passe mieux et on a des résultats plus vite aussi, on va pas se mentir. Et voilà, c'est tout ça qui a fait que pour moi accompagner les femmes, ça fait encore plus sens. Et surtout, et je mets de plus en plus l'accent dessus, toutes les femmes qui sont afrodescendantes, parce que bah, c'est pleinement ma culture et parce qu'on a encore plus de choses qu'on nous a ajoutées sur le dos de par cette culture-là.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'impact que tu cherches à avoir avec ton business et si tu as un exemple concret, tu vois, d'une cliente que tu aurais accompagnée et les résultats de sa communication lui ont apporté un impact significatif. Est-ce que tu aurais un exemple pour nous expliquer un petit peu ça ?
Alors, j'ai plusieurs exemples. Là, comme ça, quand tu me poses la question, il y en a trois qui me viennent. Mm-hmm. Le premier, c'est Maëva. Maëva, elle était influenceuse dans la couture et elle voyait pas trop comment on pouvait utiliser toute la communauté qu'elle avait bâtie pour en vivre. C'est-à-dire qu'elle avait beau essayer de faire d'autres choses sur le côté, c'est vraiment vers la couture qu'elle revenait souvent, mais elle voyait pas comment transformer tout ça en un business rentable. Et ben maintenant, elle en vit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'à chaque fois, je me sens hyper fière. Mmh. Parce qu'en fait, elle arrive à créer du contenu, à avoir plein d'idées et à faire en sorte que ça génère de l'argent. Et donc, elle s'épanouit clairement dans son business. Et ça, c'est vraiment, je vais pas dire de mes plus grandes victoires, parce que c'est pas ma victoire, c'est la sienne. Mmh. Mais c'est le genre de victoire que je vois où je me dis, ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. Je pense aussi à Amandine. Amandine, on a eu une relation très particulière parce qu'elle a commencé en étant ma cliente. Et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on se fait régulièrement des coworking ensemble. On est vraiment devenues copines. Et il y a eu un moment où ça allait pas du tout dans son business et où elle voulait tout arrêter. Et je l'ai vraiment poussée à continuer en lui disant « Mais si, je t'assure qu'il y a vraiment un truc à faire dans ça. » Et là, elle a réussi à travailler avec sa cliente idéale de chez Idéal, une personne qu'elle admirait le plus que tout, et à faire en sorte qu'en fait, ça lui redonne tout le goût de communiquer sur son entreprise. Mmh. Et donc là, elle enchaîne les commandes, elle est pleine. Et elle n'a pas encore le luxe de pouvoir dire qu'elle vit totalement de cette activité-là. Elle a deux casquettes, mais elle s'éclate tellement maintenant que ça n'a plus rien à voir avec la Amandine qu'il y avait avant. Et en fait, c'est le genre de victoire où ça se ressent même dans leur vie perso. Même dans leur vie perso, tu sens que le fait de prendre leur place dans leur business, ça impacte la manière dont elles vont élever leurs enfants, ça impacte la place qu'elles prennent dans leur couple. Et du coup, c'est des femmes qui sont encore plus puissantes, encore plus accomplies. Et en fait, quand tu vois ce que ça peut déjà impacter dans leur vie perso, tu te dis que ça va continuer à impacter dans le monde entier. Et c'est ça que je cherche à faire. Et puis, je pense aussi à Carole. Carole qui a, elle, un business qui est vraiment tourné vers le bien-être des femmes, puisqu'elle fait des infusions pour aider les femmes à avoir moins mal pendant leurs règles. Et elle, c'est pareil. En fait, ce qui joue beaucoup, elle parlait beaucoup avec les gens dans sa communauté, mais qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir un vrai impact. Et en fait, maintenant qu'elle vend des produits physiques et qu'elle a des retours des gens, elle voit concrètement ce qu'elle peut apporter aux gens. Et ça lui a donné une motivation dans son business qui est aussi assez incroyable. Et c'est pareil, en fait, de sentir l'impact qu'elle a auprès des gens, elle s'autorise beaucoup plus de choses, comme par exemple à participer à des conférences pour parler de ça, ce qu'avant elle n'aurait pas du tout osé faire, donc elle a beaucoup gagné confiance en elle, et en fait elle s'est découvert bah, du coup, d'autres sources de revenus, puisque des conférences on se fait payer pour en faire, et donc du coup, bah, encore une fois, c'est vraiment, elle déploie ses ailes plus qu'est-ce qu'elle n'avait imaginé au début.
Un cercle vertueux, quoi.
Exactement.
Ah, c'est trop bien. Ok, bon, merci beaucoup pour ce partage. J'ai quelques questions pour toi, pour que tu puisses partager peut-être quelques conseils aux personnes qui voudraient travailler sur leur stratégie de communication. Donc déjà, ma première question, c'est, selon toi, quelles sont les erreurs les plus communes qu'une personne va faire avec sa communication et du coup, qui pourraient lui porter préjudice ?
Alors, la première erreur, c'est la plus classique, vouloir s'adresser à tout le monde.
Ouais.
En fait, quand les gens me disent, non mais moi, mon produit ou mon service, il touche tout le monde. Et qu'en fait, quand tu creuses, eh ben, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai ? Parce que oui, il y a plein de gens qui peuvent acheter ton service et ton produit, mais avec qui toi t'as vraiment envie de travailler, ça c'est une autre histoire. Et l'exemple que je prends souvent, parce que je trouve que c'est une personne détestable, et attention ça n'engage que moi, c'est est-ce que t'as envie de travailler avec Éric Zemmour ou avec Donald Trump ?
Okay.
Et souvent, évidemment, vu que les personnes qui travaillent avec moi ont à peu près les mêmes valeurs, souvent elles éclatent de rire en me disant non. Et je dis, bah voilà, donc déjà, tu peux pas travailler avec tout le monde, parce que ces personnes-là, t'es pas prête à travailler avec elles. Et oui, bien sûr que, je sais pas, si par exemple, je sais pas ce qu'on pourrait leur vendre, mais si par exemple, tu vends un truc qui se mange, évidemment que Donald Trump et Eric Zemmour, ils peuvent acheter, mais est-ce que toi, t'as envie qu'ils achètent ? Souvent, eh ben, ça fonctionne pas. Du coup, le conseil que je donne à toutes les personnes qui ont en tête « je peux travailler avec tout le monde », c'est « ok, avec qui tu n'as pas envie de travailler ouais. ». C'est ce qu'on appelle l'exercice de l'antipersona. Mmh. C'est de réfléchir, par exemple, si tu n'as pas envie de travailler avec Éric Zemmour, quelles sont les valeurs qu'Éric Zemmour met en avant qui ne résonnent pas du tout avec ce que toi, avec ta vision de la vie, avec ta vision du business, avec ce que tu as envie de faire. Moi, par exemple, c'est l'intolérance pure de Donald Trump et d'Éric Zemmour qui ne me correspond pas. Du coup, ça veut dire que ma valeur tolérance, elle est importante, ma valeur respect, elle est importante. Et en fait, en faisant cet exercice, tu vas réussir à trouver petit à petit les valeurs qui caractérisent les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Et puis la deuxième erreur, je pense que c'est le fait de vouloir être partout. Le fait de se dire que dans une stratégie de communication, il faut qu'on soit présent sur tous les réseaux sociaux, il faut qu'on ait un podcast, il faut qu'on ait une newsletter, il faut qu'on soit vraiment présent partout, qu'on ait des flyers, des affiches dans le métro. Et en fait, souvent, ça ne fait que diluer nos efforts. Il vaut mieux se concentrer d'abord sur un réseau social pour ensuite faire une newsletter parce que on garde en tête que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas et que du coup, il faut récolter les adresses des gens. Et puis après, potentiellement, faire une plateforme de contenu long. Ce que j'entends par contenu long, c'est un blog, une chaîne YouTube, un podcast. Ouais. Parce que comme ça, ça permet en fait de fidéliser les gens beaucoup plus et ensuite de nourrir les réseaux sociaux puisqu'on va utiliser tout le contenu qu'on a créé sur du long terme pour le repartager sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet de garder en régularité. Donc pour moi, c'est ça, les deux grandes erreurs, ça serait... de vouloir parler à tout le monde et de diluer ses efforts en voulant être partout. Et du coup, les deux solutions, première solution, faire l'exercice de l'antipersona, et deuxième solution, se concentrer sur un réseau social, une plateforme longue, genre article de blog, chaîne YouTube ou podcast, et une newsletter.
Yes. Et d'ailleurs, l'exercice antipersona, il est hyper intéressant aussi en branding, parce que moi, je l'utilise quand je vais travailler des identités visuelles ou des stratégies de marque. En fait, c'est toujours plus facile de dire « Ok, qu'est-ce qui me plaît pas et qu'est-ce que je veux pas que qu'est-ce que je veux ?» Et en fait, cet exercice, il est hyper fort, donc je suis d'accord. Comment l'utilisation des réseaux sociaux comme Instagram, on va prendre Instagram par exemple, ça peut aider à transformer sa marque, donc j'entends sa marque personnelle. Est-ce que tu as des astuces en fait, qui pourraient nous permettre de maximiser l'impact des réseaux sociaux pour notre marque personnelle ?
Je pense que c'est déjà d'être... Alors... Franchement, je suis désolée pour toutes les personnes qui en ont marre de ce mot, d'être authentique.
Oui.
ce que j'entends par là, c'est que par exemple, moi, une des raisons pour lesquelles je suis connue, c'est le hello coucou que je dis en début de story. Ouais. Mais en fait, comment il est venu, ce hello coucou ? C'est juste que la première fois que j'ai dit bonjour en story, j'étais hyper gênée, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'étais vraiment genre « Hello !» Mais en fait, « Hello », je trouvais ça trop court. Et « Coucou !» Je trouvais ça trop bizarre. Du coup, j'ai juste mixé les deux. Et ça a donné un truc que maintenant, je dis avec joie et pour lequel je suis en fait hyper reconnue. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est ça que ça permet de faire. Ça permet d'appuyer sur des qualités, des caractéristiques que toi, tu as. Et en fait, ça se transforme en marque personnelle. Là où je trouve que c'est très aussi libérateur, c'est qu'en fait, c'est souvent les gens qui vont déterminer c'est quoi tes qualités ouais. et ce qui fait ta marque personnelle. Par exemple, et je raconte souvent cette anecdote, moi je suis née le 21 juin, et donc ma mère, quand elle me surnomme mon soleil, j'avais toujours l'impression que c'était par rapport à mon anniversaire. Et il n'y a que en m'affichant sur les réseaux sociaux que je me suis rendu compte en fait que quand les gens me disent que je suis solaire, ça ne veut pas juste dire que je suis née le 21 juin. Ça veut surtout dire qu'en fait j'ai une personnalité qui est solaire. Et ça, je ne l'aurais pas su si je ne m'étais pas montrée sur les réseaux sociaux, ouais. et je n'aurais sûrement pas maximisé ça. Si je ne m'étais pas montrée et si on ne me l'avait pas fait remarquer. Du coup, le fait de te montrer tel que tu es, en fait, ça va aussi t'aider à construire et à comprendre ce qu'est vraiment ta marque personnelle et à ensuite faire en sorte que bah, ça se voit partout. Par exemple, du coup, moi, c'est en partant de ça que j'ai mis la joie en valeur numéro 1 dans ce que je veux que mon identité reflète et du coup, dans tout ce que ma communication doit renvoyer. Pour moi, il faut que ça soit joyeux.
Ouais.
Et donc, du coup, eh ben ça, c'est parce que déjà, ça me plaît, mais aussi parce que les gens m'ont fait remarquer que c'était quelque chose qui me différenciait des autres.
Ok. Très belle transition vers la deuxième partie de cet épisode où nous allons parler un petit peu plus de marque personnelle et de branding. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu rapidement ton identité visuelle et ta stratégie de communication et nous expliquer derrière ça, derrière ces choix, quelle histoire, en fait, tu veux retranscrire ?
Tu veux le faire couleur par couleur ou vraiment genre
non,
tout branding ?
En général, tu
veux... Ok. Alors déjà, moi, je suis pas une meuf pastel. Et du coup, au début, j'avais une identité visuelle pastel qui ne me correspondait pas du tout. Parce que, bah, déjà, je suis cash dans ma manière d'être, mais aussi bah, parce que j'aime les choses vibrantes, même les couleurs, j'aime les couleurs qui sont vibrantes et tout. Et donc, ça a été un des premiers choix que j'ai voulu faire, c'est qu'il n'y ait pas de couleurs pastel, parce que je suis quelqu'un qui, naturellement, amène beaucoup de couleurs et a beaucoup d'énergie. Ensuite, dans les choix de couleurs, bah, comme je l'ai dit, je voulais retransmettre la joie. Donc, le orange, c'est une des couleurs, déjà, que j'adore personnellement, mais qui est venue assez naturellement et sur laquelle j'ai capitalisé. Et ensuite, on a transformé, je dis on parce que j'ai travaillé toute mon identité visuelle avec Marion, on a transformé toutes les autres couleurs que j'aimais bien autour du coup de cet orange et autour du marron. Pourquoi j'ai choisi le marron? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, travailler pour des femmes afrodescendantes, c'est hyper important pour moi. Et le marron, c'est pas juste la représentation de nos couleurs de peau, c'est vraiment aussi lié à toute notre culture et à tout ce qu'on renvoie et au continent dont on vient. Donc le marron était aussi important pour moi.
C'est les racines aussi.
Ouais, c'est vraiment nos racines. Et du coup, on a mixé tout ça pour créer une identité visuelle du coup, qui renvoie de la joie, qui renvoie ma culture. Et par exemple, on s'est aussi beaucoup inspiré des motifs madras qu'on a aux Antilles ou des motifs un peu wax qu'on va avoir en Afrique pour créer des couleurs et des motifs qui correspondent à ce que je veux renvoyer.
Ouais, exact. Du coup, si on parle un peu de l'aspect communication, quels sont les choix que tu as fait dans ta communication pour faire ressortir tes valeurs, justement?
Alors déjà, dans ma communication, le premier truc qu'on remarque, c'est que je tutoie beaucoup les gens. Mm-hmm. Et en fait, ça, c'est juste parce que je ne sais pas vouvoyer les gens. C'est-à-dire que des gens que je rencontre en face, je peux les vouvoyer la première fois, la deuxième phrase peut-être, mais après, c'est mort. Ouais. Je vais tout tutoyer très vite. Donc ça, c'est direct dans mon choix de communication, c'est je le mets en avant. Et je sais que parfois, ça ne plaît pas aux gens. Il y a des gens qui sont vraiment heurtés presque parce que je les tutoie. Mais en fait, c'est juste que c'est pas des clients avec qui je vais bien m'entendre, ouais. Parce que je ne sais pas, vous voyez, encore une fois. Et puis, un autre choix de communication que j'ai fait, c'est que tout est au féminin. Ça veut pas dire que j'ai jamais travaillé avec des hommes, ça veut juste dire que les hommes avec qui je vais travailler, par exemple, ben en fait, ils vont pas être heurtés par le fait que ma communication soit au féminin. Et en fait, moi, je m'adresse à des femmes, je suis une femme, ma communication, elle est au féminin. Voilà. Et ensuite, j'essaye d'être assez proche des gens, parce que naturellement, je suis aussi quelqu'un qui est proche des gens, qui aime bien discuter avec les gens. Et donc, du coup, je vais beaucoup être dans l'échange. Ça veut dire que, par exemple, si jamais on répond à mes stickers sur Instagram, on est sûr et certain que moi, je vais répondre derrière. Quand on voit mes posts Instagram, si je pose une question et qu'il y a des gens qui y répondent, je réponds aux gens aussi. Et donc, j'ai une communication qui est aussi assez proche des gens. Et du coup, le tutoiement m'aide beaucoup dans ça. Donc, tout est fait pour ça. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui est assez direct. Et pour certains, ça aide beaucoup parce que je vais être quelqu'un qui va beaucoup me motiver les gens à passer à l'action. C'est ce qu'on m'a souvent dit. Et du coup, je joue beaucoup sur ça en étant très encourageante aussi dans mes posts. Par exemple, je ne vais pas juste te dire « c'est nul de ne pas te montrer ». Je vais plutôt te dire « ok, ben voilà pourquoi ça peut être dommageable de ne pas te montrer, mais aussi voilà comment tu peux passer à l'action. Et vas-y, tu vas être la meilleure, tu vas te démarquer, ça va être hyper positif pour toi. » Et en fait, j'essaye vraiment d'encourager les gens parce que assez naturellement, je suis comme ça aussi.
Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais que tu emploies le féminin pour t'adresser à ta cible qui est composée de femmes entrepreneurs. Comment est-ce que tu t'assures que ton message y résonne bien avec cette cible? Est-ce que tu as des astuces, des outils que tu utilises pour être certaine, tu vois, que ton message il s'adresse bien à la bonne personne?
Bah franchement, les études persona, c'est juste à force de parler avec... déjà parce que je fais souvent des études persona, c'est-à-dire que je vais souvent dire « Hello, j'ai besoin de discuter avec mon persona, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des appels gratuits ?» Et d'ailleurs, c'est un truc que je vous conseille parce que souvent on a peur de le faire, mais tout le monde a envie de parler de soi, donc on a souvent des réponses très favorables. Et donc, j'échange souvent avec ma cible, que ce soit dans le cadre des études persona ou même sur mon compte Instagram, je parle tout le temps avec des gens. Mes messages privés, ils sont tout le temps, je ne vais pas dire remplis, mais il y a tout le temps des gens qui me parlent, justement parce que moi-même, je leur pose beaucoup de questions. Et du coup, ça me permet d'être sûre et certaine que je parle aux bonnes personnes.
Ouais, d'accord. Okay.
Sur ce sujet-là, je rajoute aussi un truc, c'est que je fais l'effort, en échangeant avec les gens, d'adapter mon discours. Parce que souvent, quand on se lance sur Instagram, on va avoir que nos concurrentes sur le même domaine qui vont venir commenter nos posts. Et ça, généralement, c'est qu'on est trop dans notre syndrome de l'expert et qu'on se retrouve avec un langage qui est trop... élevé par rapport à ce que les gens vont utiliser. Et pas élevé dans le terme soutenu, non, vraiment élevé dans notre expertise. Par exemple, dans le marketing, si je commence à te dire qu'on va faire un brainstorming pour augmenter le CTM de je sais pas quoi, il y a que nous qui allons comprendre parce qu'on est dans le truc. Ma cliente idéale, elle va pas comprendre ça. Donc il faut vraiment que je ramène à quels sont les mots qu'elle emploierait qu'est-ce que elle a l'habitude de voir et d'entendre, et de me caler sur ça pour être sûre et certaine que je parle aux bonnes personnes et pas juste que je parle à mes concurrentes.
Ouais, c'est hyper intéressant ça, d'utiliser le langage de la personne à qui tu veux parler, parce que sinon, effectivement, il y a un problème d'alignement entre ce que tu dis et ce qui est compris. Et puis, comme tu disais, ouais, on attire les concurrents au final. Merci pour ce conseil. Est-ce que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous dire si ta marque elle a évolué depuis ses débuts, et est-ce que tu as un moment clé où tu sens que tu as dû adapter ta stratégie pour vraiment rester pertinente déjà à qui toi tu es, à l'entrepreneur derrière le business, mais aussi pour rester justement bien connecté à ton audience cœur?
Alors, ma marque a grandement évolué. Déjà parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec une identité pastel, ce qui ne me représentait pas du tout. Et puis, parce qu'on ne va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est tellement un outil de développement personnel qu'entre le moment où je me suis lancée en 2020 et là, moi, qui commence 2024, il y a un gouffre. Et donc, du coup, j'ai dû m'adapter à ça. J'ai dû m'adapter au fait qu'en fait, l'image que je renvoyais ne me correspondait plus du tout, au point même qu'en fait, je communiquais quasiment plus.
Ouais.
Parce que l'identité ne me convenait pas, parce qu'on était sur des polices même qui ne me convenaient pas, parce que ça ne m'amusait plus de
en
faire
fait,
ma communication.
Ça devient un poids lourd, quoi.
Ouais. Mm. Et ça, au moment où ça s'est arrivé, je me suis dit, ok, il faut changer des choses. Mm. Et en fait, en vrai, je suis de plus en plus transparente sur ça, mais moi, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive presque tous les 6 mois de me dire, ah, il y a un petit truc dans ma communication qui fait que ça va pas. Du coup, comment je me réaligne? Déjà, je me demande, je cherche ce qui ne me convient plus. Je me pose des questions à moi-même pour déjà trouver si c'est par rapport à moi-même ou si c'est par rapport à mes clientes.
Ouais.
Si j'attire plus les bonnes personnes, ben là, je refais des entretiens persona.
Okay, ouais.
Donc du coup, visuellement, ça a changé. Ça a changé aussi dans ma manière de m'exprimer. Mm-hmm. C'est-à-dire que maintenant, je suis de plus en plus droite au but. Avant, j'avais un peu le truc de... Vu que je parle sur Instagram, il faut que je heurte personne. Et donc, il faut que mes phrases, elles soient un petit peu plus longues pour vraiment prendre le temps.
D'enrober les choses.
Exactement. Maintenant, je vais beaucoup plus droit au but. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me remercient justement parce que je suis synthétique et parce que je vais droit au but. Donc ouais, ma communication, elle a évolué et elle évolue tout le temps en vrai. Et elle va continuer d'évoluer.
Ouais, non, c'est sûr.
Parce que là, par exemple, je viens de faire... J'arrête pas de dire je viens de faire, mais ça fait presque 2 mois que je suis rentrée de Martinique. Mais bref, j'ai fait une pause de du coup 1 mois où j'étais en Martinique, où j'étais dans ma famille en Martinique. Et c'est pareil, le retour aux racines, le retour à ma culture, c'est à chaque fois, ok, je vais changer des choses dans ma communication. Je vais beaucoup plus montrer qui je suis. Je vais beaucoup plus montrer comment je garde un lien avec ma culture antillaise qui est hyper importante pour moi. Et ça, c'est pareil, ça se ressent dans ma communication. Dès que je reviens de vacances, ça se ressent de toute
ouais.
façon. Il y a des choses qui changent.
Ouais. J'ai une dernière question. Je voulais te la poser dans un certain sens, mais en fait, je vais te la poser dans l'autre sens. Je t'expliquais pourquoi. Ma question, c'était comment ta propre expérience en tant que femme entrepreneur a influencé ta marque et ta façon de communiquer. En fait, finalement, j'ai envie de te la poser dans l'autre sens. Comment ta marque que tu as créée et ta façon de communiquer, ça a influencé l'entrepreneur que tu es.
Ah là là. Alors, ma façon de communiquer m'a clairement aidée à gagner confiance en moi.
Ouais.
Attention, je mets la limite sur la confiance en soi, c'est pas l'estime de soi, qu'on soit d'accord sur ça. Mais par exemple, un des trucs qui a beaucoup changé, c'est mon rapport au regard des autres. Avant, c'était un truc qui pouvait un peu m'empêcher d'être pleinement moi-même. J'étais vraiment en mode, je dois lisser un petit peu les aspects de ma personnalité. Surtout, et ça je veux vraiment être transparente dessus, j'ai fait un burn-out à cause d'un harcèlement moral. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne faisait que critiquer la personne que j'étais. Comme par exemple le fait que mon rire, il était trop fort. Que mes cheveux, ils n'étaient pas professionnels. Et en fait, ça, même si tu sais que ce n'est pas vrai, ça met un petit doute et ça te met des limites dans ta manière de te montrer. Et du coup, comme j'ai cette volonté d'inspirer les gens, de les pousser à l'action, d'être hyper encourageante, bah, il faut que moi-même... je sois une personne qui a confiance et qui pousse les gens. Et le fait de voir que j'arrivais à avoir cet impact dans ma communication, et donc d'avoir des retours en mode « Ah merci, c'est trop bien ce que tu fais, merci, tu m'as permis de passer à l'action », et même dans des contenus gratuits, hein, je parle pas forcément juste de mes clientes, c'est vraiment des retours même sur certains reels que j'ai fait sur Instagram, je me dis « Ok, bah en fait, je suis une meuf badass, quoi. En fait, je suis une meuf qui peut être encourageante, je suis une meuf hyper cool, qui est hyper solaire et qui est reconnue pour ça. Et du coup, ça m'aide à l'être encore plus dans la vraie vie et à assumer encore plus qui je suis dans la vraie vie.
Ouais.
Et d'ailleurs, tu l'as vu toi-même, j'ai traversé Bordeaux déguisée en Scooby-Doo avec mes fesses à l'air dans un collant sous un tutu. Bah voilà, moi ça m'a pas dérangé du tout. Il y avait plein de gens qui nous regardaient pourtant, mais ça m'a pas dérangé. Ouais. Toi t'étais pas déguisée à côté de moi, j'étais même la seule déguisée à un moment. Ça m'a pas du tout dérangé parce que j'ai pris l'habitude en fait d'assumer pleinement qui je suis et de m'en foutre du regard des autres. Parce que au contraire, bah il y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens que ça va inspirer. Et la preuve, tu l'as vu toi-même, dans le tram qu'on a pris, il y a des gens qui sont venus nous parler. Il y a des gens qui sont venus en mode « Oh, trop cool, c'est trop bien. Ah, c'était pour le carnaval, mais c'est quoi le carnaval exactement ?» Et en fait, du coup, ça crée des discussions et ça résonne avec les bonnes personnes. Les personnes que ça embêtait de me voir avec toutes mes paillettes et tout mon tutu et mes oreilles de chien, ils ne sont pas venus nous parler. Du coup, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, ouais.
Ouais, c'est ça que j'essaye aussi de communiquer, tu vois, et c'est intéressant que tu le dises, c'est que vraiment, quand tu travailles bien ta stratégie de marque, ton branding, ton identité visuelle, enfin tout ce qui gravite autour de tout ça, c'est que ça t'aide vraiment à prendre conscience de tes valeurs, de tes points forts, et ça t'aide aussi à sortir un peu, à la fois de sortir de ta coquille, mais aussi de, comme tu disais, tu vois, d'arrêter de te poser des limites parce que le regard des autres dit que voilà, tu devrais pas faire ci et tout ça. Et en fait, de travailler sur ta marque personnelle, ça te permet de tout simplement assumer qui t'es et puis derrière d'être tellement plus confiante, mais dans le sens libérée, quoi. Tu vois, vraiment, tu te sens libre de communiquer comme tu as envie. Et comme tu disais, ce qui est bien, c'est que ça résonne avec les personnes chez qui ça parle et en fait, t'attires les bonnes personnes de cette façon. En étant toi, t'attires les bonnes personnes.
Oui, et puis je le disais tout à l'heure sur la qualité que... Bah, ma communication m'a permis de découvrir sur le fait que j'étais solaire. C'est vraiment un truc, je sais pas si j'aurais pu le découvrir aussi vite sans communiquer. C'est vraiment parce qu'il y a des gens qui m'ont fait ce genre de retour que je me suis dit, ah ok, bah je le suis vraiment. Et parce que moi, quand mes amis me le disaient, encore une fois, je le rappelle, je pensais juste que c'était parce que je suis née le 21 juin et que c'est le jour de l'été. Et du coup, maintenant, je sais que c'est une de mes qualités et que bah, je l'utilise... avec beaucoup plus de conscience, et du coup, ça a plus de poids et plus d'impact chez les gens auprès de qui je vais communiquer.
Et c'est là où c'est important de rappeler que, parce qu'à chaque fois, je parle de marque, et on peut se dire, mais moi, j'ai pas de marque, en fait, voilà. En fait, c'est hyper intéressant dans ce que tu dis, tu vois, la marque, c'est vraiment, bah, en fait, le retour des gens sur ce qu'on a créé, et c'est ça qui crée notre marque, donc c'est hyper intéressant de faire attention à comment les gens interagissent avec nous, quels mots ils utilisent, quel mot ils emploient en fait quand ils parlent de nous, parce que finalement ça va vraiment nous donner le miroir de notre image, et c'est comme ça qu'on sait aussi si tout est cohérent avec ce qu'on a envie de véhiculer. Eh bien merci, nous avons terminé cette petite interview, j'ai deux dernières petites questions pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les projets futurs ou les prochaines étapes pour Get Your Com?
Alors le projet futur, il est vraiment de faire comprendre aux gens à quel point l'intelligence artificielle ça peut aider, et je ne vais pas dans toute l'intelligence artificielle, juste ChatGPT déjà, en fait, de faire comprendre aux gens qu'on a des outils géniaux qui peuvent nous aider à gagner beaucoup de temps et donc qu'il s'agit juste d'apprendre à les utiliser pour nous enlever de la charge mentale et pour nous accompagner. Et là où c'est hyper puissant, c'est que l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas et ne va pas tout créer à notre place et faire disparaître nos métiers. Et ça ne va pas non plus nous empêcher de réfléchir, parce qu'en fait, pour faire un bon prompt sur ChatGPT, il faut que tu aies une expertise et il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Par exemple, moi, je sais que tout ce dont on a parlé aujourd'hui sur ma marque personnelle, je le dis à ChatGPT pour qu'il me sorte des contenus qui me correspondent à moi. Donc, par exemple, je vais lui dire, il faut qu'à chaque fois, les contenus ils soient encourageants. Il faut qu'à chaque fois, il y ait de la joie. Il y ait des exemples qui nous donnent de la joie, il faut qu'il y ait du sourire, etc. Et ça, ChatGPT, il le comprend et il est capable de me sortir des textes qui me correspondent vraiment. D'ailleurs, à ce sujet-là, si jamais ça vous intéresse, j'ai un challenge gratuit. Donc, vous recevez un jour, un mail, un prompt, à chaque fois pour vous aider dans les étapes de création de contenu. Donc ça, ouais, c'est mon prochain projet, c'est vraiment de concentrer mes efforts dessus et d'aider les gens à aller plus loin avec ChatGPT. Et puis, je pense que j'aimerais bien me tenter au présentiel. Je donne déjà des cours dans des écoles marketing, mais je pense que j'aimerais bien faire un event vraiment entrepreneuriat féminin hyper joyeux où on se rencontre toujours dans la joie évidemment, autour de bons trucs à manger, avec de la musique, bref, un truc vraiment très cool. Je pense que j'aimerais bien faire du présentiel, ouais, ça me plaît.
T'as dit que t'aimais pas l'événementiel.
Ouais, mais je vais trouver quelqu'un pour le faire pour moi.
Et donc, pour celles qui souhaiteraient te contacter pour savoir un peu ce que tu proposes en termes de services, d'accompagnement, tout ça, quelle est la meilleure façon de te joindre ?
Instagram. Instagram, c'est @getyourcom et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Get Your Crown, cette fois. Comme vous retrouverez le lien du podcast sur Instagram, rendez-vous sur Instagram directement.
Ok, merci Ariane. C'était super intéressant. J'espère aussi que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu de partager ce moment avec nous. Et puis, je vous retrouverai de toute façon toutes les infos, tous les liens de Lauriane en description de l'épisode. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce type d'épisode et d'échange si ça vous plaît, pour que je puisse continuer à vous partager tout ça. Merci, ciao.
Bisous.